c'est parce que Radio Capéuné le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Bien, depuis quelque temps, on assiste à un réel conflit de compétences entre les ministères de l'EPSP et celui de la formation professionnelle, métier et artisanat, FPMA, en sigle. Il règne une réelle confusion en ce qui concerne les attributions de chaque ministère. Par exemple, il y a des sérieux problèmes en ce qui concerne l'organisation des épreuves de l'examen d'État, l'impression des bulletins et autres. Alors, cela affecte sérieusement le bon fonctionnement de ces deux ministères. Alors, que faire pour mettre fin à ce conflit de compétences? On en parle aujourd'hui avec nos invités, M. Marcel Nyongo Mabiala, est président de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPSP et secrétaire général de la CIECO. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, comment est-ce que ces conflits de compétences entre le ministère de l'EPSP et celui de FPMA a commencé?
Oui, merci.
Qu'est-ce qui est à l'origine de ces conflits?
Merci pour la question. Je crois que nous sommes en 2012. Le gouvernement de la République crée 3 ministères du secteur éducatif. Il y a le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, le ministère de l'enseignement technique et professionnel et le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. Ces 3 ministères avaient des attributions distinctes. C'est-à-dire, l'enseignement technique devait aller au ministère de l'enseignement technique et professionnel. Mmh. Quelques temps après, le même gouvernement supprime le ministère de l'enseignement technique et professionnel pour rester avec 2 ministères. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Mmh. Et puis le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat.
FPMA.
FPMA en sigle.
Ok.
Voilà le début du problème. Alors, en supprimant le ministère de l'enseignement technique et professionnel, l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté perd la nouvelle citoyenneté pour l'envoyer au ministère de la Jeunesse et récupère le professionnel. Voilà ce qui s'est passé. Mmh. Alors, à tel point que nous avons eu 2 ministères. Ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, EPSP, et ministère de l'enseignement de la formation professionnelle, métier et artisanat, FPMA en sigle.
Oui.
Malheureusement, la confusion, c'est dans nos têtes. Les attributions ont été bel et bien décrites par le gouvernement. Donc, les 2 ministères avaient leurs attributions distinctes. Malheureusement, l'interprétation des textes fait à ce que cette confusion persiste jusqu'à aujourd'hui.
Et on a appris qu'il y a des endroits où les inspecteurs se sont même roués de coups à cause de cette affaire.
Effectivement. Prenons le cas d'Njili, à Litinjili. L'école est complètement prise en otage par le FPMA. Complètement.
Parce que c'est une école professionnelle.
Oui. Même dans les provinces, à Litimatadi, là aussi, il y a eu des problèmes.
Il y a eu des bagarres.
Des bagarres entre inspecteurs, entre enseignants. Donc, ce qui déshonore même le système éducatif. Comment voulez-vous, nous éducateurs, nous devons nous battre devant les enfants? Et quelle est la motivation, monsieur le journaliste? C'est l'argent. Nous ne voyons pas l'intérêt supérieur de l'enfant que nous sommes censés déformer, mais nous voyons le lucre.
L'argent.
Il n'y a que ça.
Mais la FPMA n'existait pas avant. C'est l'EPSP qui s'occupait de tout, de la formation professionnelle. Mais depuis un moment, quand on a appris qu'il y avait des bailleurs qui voulaient mettre un peu plus d'argent dans la formation technique, et c'est là où les problèmes ont commencé.
Voilà, c'est là où les problèmes ont commencé. Parce que, du temps de l'EPSP, il y avait même une initiative de convertir certaines options d'ordre général en options techniques. Et ce qui a été fait, beaucoup d'options générales ont été supprimées en faveur des options techniques. Parce que les bailleurs de fonds devaient financer l'enseignement technique. Tout ça, c'était dans le cadre de l'EPSP. Mais quand le FPMA est arrivé, ils ont dit que non, c'est nous qui devons gérer les écoles techniques. Mais je dois vous dire qu'il y a une différence nette entre l'enseignement et la formation professionnelle. Il y a une différence. Donc, maintenant, les gens croient que toute la formation professionnelle devient l'enseignement. Ce n'est pas ça. Nous devons dire les choses clairement. Nous sommes des pédagogues.
Où se trouve la différence entre la formation professionnelle et l'enseignement technique?
Ok. L'enseignement technique, c'est-à-dire la transmission des connaissances aux enfants. Il y a des méthodes que les enseignants utilisent pour transmettre les connaissances aux enfants, qu'on appelle surtout des méthodes pédagogiques. On peut utiliser l'approche par objectif, tout comme l'approche par compétence. C'est ça que nous, pédagogues, nous utilisons pour la transmission des connaissances aux enfants. Mais au niveau de la formation professionnelle, ce sont des aspects, l'andragogie qu'on utilise là-bas. Ce n'est pas la pédagogie, c'est l'andragogie. Donc, c'est pour vous dire.
L'andragogie, c'est le type d'enseignement adapté pour les adultes.
Pour les adultes, c'est ça. Donc, on suppose que l'enfant qui a peut-être des déficits dans les plans de formation au niveau de l'enseignement primaire peut aller continuer sa formation professionnelle quelque part pour enrichir ses connaissances et pour devenir un homme utile à la société. Aujourd'hui,
mais
nous n'avons pas la classe moyenne.
La formation professionnelle, ce n'est pas là où on apprend, par exemple, la maçonnerie, on apprend la technique, on apprend un peu tous ces genres de métiers.
Tout ça, ça s'apprend au niveau de l'école. On apprend ça au niveau de l'école. Mais
de la compétence de l'EPSP.
De l'EPSP. Mais oui. Au niveau de la formation professionnelle, on va essayer de former cet enfant-là afin qu'il y ait de l'expertise pour pouvoir exercer cet emploi-là. Voilà un peu ce que l'EPSP devait faire. C'est-à-dire qu'une formation en dehors de ce que l'EPSP lui a donné.
D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure. On va accueillir Didier Bakeke Ben Pocho, coordonnateur national de l'Association pour la promotion de l'enseignement technique et la formation professionnelle en RDC. Monsieur Didier Bakeke, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, je vous suis très bien.
Alors, il règne une confusion totale entre l'EPSP et le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. D'après vous, qu'est-ce qui est à l'origine de cette confusion ou de ces conflits?
Bien, monsieur le journaliste, nous avons eu à déplorer, depuis qu'on avait créé le ministère de l'enseignement technique et professionnel, suivant les orientations de la réforme qui devrait se faire au niveau de l'EPSP, nous avons constaté qu'il y a eu des dysfonctionnements depuis d'abord la création de l'ETP. Et après, le gouvernement vient créer encore le ministère de la formation professionnelle métier artisanat. Et cette histoire a semé encore de la confusion, et la confusion règne autour de la gestion des écoles techniques. Je suis d'accord avec le premier intervenant, puisque aujourd'hui, les écoles techniques, dans le plan de la stratégie de l'éducation, devraient recevoir beaucoup de financement, puisque le gouvernement avait constaté que nous avons formé beaucoup, mais il y a peu de main-d'œuvre.
Oui, alors qu'est-ce que vous entendez par...
Avec le projet, à l'époque, des cinq sentiers, tous les projets qui devaient accompagner le développement de notre pays,
oui. On
a constaté que même au niveau des organisations internationales, même au niveau de la MONUSCO, on recrute des main-d'œuvre qui viennent de l'étranger. Même les plombiers, vous pouvez faire des enquêtes, les électriciens. Alors, le gouvernement avait songé pour réformer l'enseignement afin de répondre à cette éventualité. C'est-à-dire que former une main-d'œuvre compétente, capable d'assumer et de s'assurer par rapport au projet de développement qui était initié dans notre pays.
Oui.
Voilà un peu l'idée qu'il y a. Maintenant, quand on a constaté que beaucoup de financements devraient rentrer dans cette histoire-là, alors on a constaté que les acteurs au niveau de l'éducation commençaient à se battre pour le contrôle de cette enveloppe, puisque nous constatons qu'on a eu à le déplorer. C'est autour de l'argent, ce n'est même pas pour l'intérêt des élèves, ni même pour l'intérêt du développement de notre système éducatif.
Oui. Alors, M. Didier, il y a encore une confusion. Il y a eu une confusion dernièrement. Le ministère de l'EPSP veut organiser les épreuves de l'examen d'État. Le ministère de la FPMA aussi veut organiser l'examen d'État. Finalement, comment est-ce que ça va se passer?
Non, nous savons que dernièrement, les communiqués interministériels qui avaient été signés entre les deux ministres ont coupé court à la question. C'est pourquoi on parle qu'il y a maintenant les questions d'argent et d'intérêt pécuniaire. Puisque les deux ministres qui gèrent le secteur de l'éducation se sont convenus en disant que c'est l'EPSP qui doit organiser les examens d'État. C'est qui dit organiser, c'est-à-dire que percevoir tous les freins liés à cette organisation, ou aussi mettre des choses claires par rapport à ces freins-là, puisque dans des provinces, nous recevons les échos de nos antennes disant que dans telle province, on a augmenté. Donc, il n'y a pas unanimité même sur le fait là, des prestations d'examen d'État. Maintenant, on ajoute encore la cacophonie, le tiraillement qui est entre le secteur de l'EPSP et le secteur de l'enseignement, de la formation professionnelle. Donc, qui doit percevoir tout ça, ça crée, alors que les deux ministres ont déjà dans leur communiqué tiré clair que c'est l'EPSP qui doit tout organiser avec la participation des experts de la formation professionnelle. Et qu'on a créé également la commission mixte EPSP-FPMA pour élaborer le passerelle des fonctionnalités. Mais sur le terrain, ça c'est bien, le communiqué a été fait, nous suivrons directement au ministre de suivre qui sont ces acteurs-là sur le terrain qui continuent à barrer la route à l'option levée par le gouvernement.
Voilà.
Alors à ce moment-là, il faut se les sanctionner, mais quand on les sanctionne, on est compris. Alors nous, les ONG, on dénonce ça.
Bien, on va accueillir deux auditeurs. Nous parlons du conflit de compétences qui règne entre les ministères de l'EPSP et celui de FMEA. Gérard, vous êtes à Djougou. Jérémy Alboumbashi. Gérard, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi. Je suis à l'écoute. Alors, bonjour à tous les Okapis.
Quelle est votre question?
Ma préoccupation est celle-ci. Si c'était vraiment pour avoir une solution, je pense que celui qui allait bien résoudre ce problème, c'est celui qui était à la base des créations de deux ministères différents. Je pense que le premier ministre allait appeler les deux ministres et puis les séparer, leur parler et savoir si tel ministère peut se limiter à tel niveau et l'autre continuer. Puisque à la base, nous pensions que la formation professionnelle, c'était seulement le ministère là allait seulement se contenter des phases de formation. Et si c'est déjà dans l'enseignement qu'il va, alors il faut peut-être limiter les SSP au niveau des formations, des cycles, de ce qu'on a dit général, disons au niveau des CEO, et que la partie professionnelle là soit sous le ministère des professions là. Puisque sinon, ce sont les enfants qui endurent la difficulté sans savoir où aller. Et on ne peut pas laisser quand même souffrir les enfants comme ça qui n'ont même pas les moyens conséquents.
D'accord, merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, d'après vous, il faut arriver à éclaircir, à mettre fin à cette confusion et que chacun connaisse quelles sont ses attributions. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour M. Jody et bonjour également aux invités avec vous. Merci pour ce sujet combien important. Mais je suis en train de m'inquiéter un peu quant à retourner soit à tout ce qui tourne autour de ce conflit de compétences. Je me demande qui est en train d'entretenir un peu ces cours ou je ne sais pas, ces virus qui engraine encore l'appareil éducatif pour la une fois. Je me demande, monsieur Jordi, pourquoi on doit entretenir un peu ce paradoxe toujours entre... Donc, je me demande qui entretient au juste ce désordre. Je pense que lorsqu'il y a un gouvernement qui est mis en place, et avec un premier ministre responsable, il n'a qu'à séparer le pouvoir. Comment voulez-vous qu'il doit y avoir un chevauchement, donc c'est-à-dire dans la passation des épreuves dites de l'État? Pour un même pays, on doit avoir combien de ministères pour un seul objectif? Je pense qu'il est plus que temps pour que le nouveau gouvernement à venir puisse un peu imprimer une bonne marque, quelque chose de mettre de l'ordre un peu dans ce secteur qui semble vraiment encore laisser vraiment des traces qui ne sont pas correctes et bonnes. Monsieur Jordi, je voudrais alors en interpeller un peu ceux qui seront un peu aux commandes de l'ordre du gouvernement de pouvoir ouvrir l'œil et des bonnes questions vraiment de mettre les choses sur les rails.
D'accord.
Je pense qu'il faut également former également les inspecteurs hein, qui créent un peu du désordre à gauche, à droite, question de pouvoir uniformiser. Si au besoin, former un seul ministère, mais il travaille concomitamment. On ne refuse pas que les ministères, donc c'est-à-dire les écoles de métiers, ne sont pas bonnes. Je pense que ça aide aussi ceux qui n'arrivent pas à décrocher le diplôme, ils peuvent soit s'arrêter au niveau de, je ne sais pas, ils font 4 ans, etc. Question de pouvoir propulser ceux qui n'ont pas du travail d'en avoir.
D'accord, merci Jérémy. Merci Jérémy Mwamba. On va accueillir Kachai de Kanyoka. Nous parlons du conflit de compétences entre le ministère de l'EPSP et le ministère de FPMEA, formation professionnelle, métier et artisanat. Kachai de Kanyoka, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ces conflits de compétences entre les deux ministères ont mis les élèves et aussi les parents d'élèves en difficulté, surtout ici en province du Kasaï central, dans le sens que il y a le ministère de la formation professionnelle et artisanat avait organisé un texte pré-examen d'État obligeant tous les élèves de ce ministère de pouvoir se présenter à ces tests. Ils se sont présentés. Et les inspecteurs ont sillonné dans presque toutes les écoles pour qu'ils puissent établir les listes définitives des élèves. Et ils ont même demandé à que leurs élèves verse l'argent dans les comptes ouverts en banque. Alors, chose décriée par les parents et aussi par l'autre ministère là de l'EPSP. C'est pourquoi moi je voulais demander. Maintenant, on ne sait pas. D'ici là, c'est la dissertation et l'examen d'État au mois de juin. Quand on va demander l'argent qu'on a même exagérément fixé ici des 140 000 francs là, on va verser dans les comptes du ministère de l'EPSP qui se réclame à avoir la compétence d'organiser l'examen d'État et la dissertation, ou soit on va verser l'argent dans les comptes du ministère de la formation professionnelle parce qu'on ne sait pas comprendre vraiment. Et les matières, même on a bouleversé les programmes, il y a des choses qui se passent dans notre pays et alors nous ne comprenons pas. C'est pourquoi moi je voulais demander à l'invité. Y a-t-il des démarches entreprises au niveau de la présidence, ou soit du gouvernement que dirige M. Bruno Tshibala, pour que le premier ministre lui-même tranche l'État, parce que ce sont eux qui avaient créé l'autre ministère de la formation professionnelle. Là. Alors maintenant, il y a des problèmes houleux.
Voilà, dernièrement, il y a eu une rencontre à la présidence et il a été décidé que seul le ministère de l'EPSP est habilité à organiser l'examen d'État.
À cela ne tient, monsieur Joudi, s'il y a eu des négociations au niveau de la présidence, quelle en est la solution? Parce que s'il y avait la solution déjà prise au niveau de la présidence par rapport aux négociations entamées, les deux ministères ne pouvaient pas encore se réclamer compétents pour organiser l'examen d'État. Voilà pourquoi nous vous demandons à ce que maintenant le premier ministre, comme c'est lui qui est le chef du gouvernement, qu'il puisse trancher l'État pour qu'il n'y ait pas la cacophonie. Au mois de mai, il y aura la dissertation. Au mois de juin, il y a l'examen d'État proprement dit. Les élèves vont se présenter à quel examen et sur base de quelle injonction donnée par quel ministère.
D'accord, merci. On va accueillir Drop Deleme de Zongo. Drop Deleme, vous êtes à Zongo. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, par rapport à cette situation, si vous remarquez bien, partout, ce sont des problèmes. Dernièrement, à Guémena, il y a eu des inspecteurs qui ont, les inspecteurs des PMA qui ont rapidé vraiment les inspecteurs de l'EPSP. Il y a eu même des troubles jusqu'à ce qu'il y ait certains qui ont été arrêtés. Alors, cette confusion-là a amené jusqu'à ce que les inspecteurs de la formation descendent dans des écoles pour donner des injonctions aux enseignants et ça sème des désordres partout. Ça continue. Si l'État pourrait arriver à définir un peu ou à mettre des garde-fous dans ce, à ce niveau-là pour dire aux autres là, il ne faut pas traverser dans la zone de l'autre parce que dans les uns, ne pas traverser dans la zone des autres parce que ça sème les dégâts. Même les enfants ont été déboussolés. Les inspecteurs ont dit qu'il faut annuler même les formulaires qu'ils avaient signés déjà. Donc ceux-là disent, c'est nous qui devons fixer l'argent. Et il y a eu toujours des désordres. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, à Guémena, ces désordres-là continuent partout. Mais si l'État pourrait définir un peu, parce que chez nous, ici, on a fixé les frais de l'examen d'État à 50 000 francs congolais, mais les préfets qui organisent les options techniques et les options à caractère général ont des confusions. Les uns réclament qu'on leur donne de l'argent, les autres en réclament. Donc c'est un désordre total. Vraiment, c'est un problème sérieux. Oui. Si l'État pourrait encore redéfinir et tracer les lignes de conduite en présentant les job descriptions de chacun, s'il fait la discussion des tâches de chacun, en donnant une formation, en répercutant l'information, ça serait une bonne chose. Sinon, les parents risquent d'être embrouillés, les enfants sont embrouillés, les préfets même des écoles, et même eux aussi les inspecteurs ne se retrouvent pas pour savoir s'ils sont de quel côté ou quel autre côté.
Donc, voilà, merci. Donc c'est la cacophonie qui règne, les inspecteurs se battent dans les écoles. Monsieur Marcel Nyongo, c'est très grave.
La situation est grave, mais monsieur Lucien, je crois que la solution a été trouvée. Malheureusement, peut-être que l'information n'arrive pas exactement dans l'arrière-pays. Parce qu'avec le communiqué officiel qui a été signé au cours d'un arrêté interministériel au niveau de la présidence de la République, je crois que cette confusion-là ne pouvait plus continuer.
Qu'est-ce que dit exactement cet arrêté?
L'arrêté dit que l'examen d'État est unique. Il n'y a qu'un seul examen d'État, conformément à l'ordonnance loi instituant l'examen d'État dans notre pays. Un seul examen d'État.
Il n'y en a pas deux.
Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul examen d'État et qui est organisé sous le leadership du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Quand cela ne tienne, il y a eu des passerelles de collaboration entre les deux ministères. En ce qui concerne l'argent, les frais des fonctions,
la perception des
frais de l'examen d'État,
oui.
Cet argent-là doit revenir au ministère de l'EPSP. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à tous les enfants qui n'étaient pas contrôlés au niveau du ministère de l'EPSP d'aller maintenant dans leurs inspections principales provinciales.
Mais les gens vont payer deux fois. Il y a certains qui ont déjà payé du côté du FPMA et ils vont encore aller payer.
Voilà le problème. Donc nous disons que l'argent qu'ils ont payé à FPMA, que le FPMA restitue l'argent aux parents afin qu'ils aillent payer au niveau de l'EPSP. Il n'y a que ça qui doit se passer. L'enfant ne doit pas payer les frais de l'examen d'État deux fois. Ça ne doit pas se passer ainsi. Et tout celui qui va enfreindre à cette obligation-là payera pour son compte.
Monsieur Didier Bakeke, vous êtes en ligne, vous êtes coordonnateur national de l'association pour la promotion de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il y a des parents qui ont déjà versé l'argent au niveau du FPMA pour l'examen d'État. Maintenant, on dit que il n'y a que l'EPSP qui a le monopole de l'organisation de l'examen d'État, alors que certains parents avaient déjà payé de l'autre côté. Alors, dites-nous comment ça va se passer.
Monsieur le journaliste, les deux institutions, EPSP, FPMA, ce sont les institutions de l'État. L'État existe, le gouvernement existe. On doit demander tout simplement les rapports à chaque province pour dire, vous qui avez, ou bien à chaque inspecteur qui avait reçu l'argent, puisque l'argent, entre guillemets, devait être versé dans des comptes officiels. Donc, on va demander seulement des comptes. Au lieu de restituer l'argent, ça va aux parents ou aux élèves. Alors que l'argent, certaines, si c'est bien géré, devrait se retrouver dans des comptes. Tout simplement, il y a la commission. Il y a la commission interministérielle qui doit prendre en compte cette question, puisque la commission interministérielle. Nous regrettons d'ailleurs, puisque les deux ministres ont constitué cette commission, ne nous ont pas associés ni les associations, ni les ONG œuvrant dans le secteur. Mais nous suggérons quand même, puisque nous avons fait une déclaration pour dire la commission interministérielle doit se passer sur la question des contributions qui ont été demandées. Mmh. Là où on a demandé plus, on doit restituer à l'argent, aux parents. Alors là où les enfants ont déjà contribué, la commission doit faire un état des lieux et dégager les sommes là où on ne peut pas payer pour ne plus frustrer les parents, parce que les parents sont frustrés, monsieur le journaliste. Oui. Alors on ne sait pas là où nous allons. Vous avez suivi les interventions au niveau des provinces. Ce que nous demandons, puisque nous avons fait une déclaration que nous avons, toutes les associations ayant dans le secteur de l'éducation, que nous avons transmis à son excellence, monsieur le président de la République, pour que le prochain gouvernement, on vide de cette confusion pour que il y a de la calmie au niveau du secteur de l'éducation.
On va accueillir le professeur Yawidi Manizambi, expert en sciences de l'éducation. Professeur Yawidi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi cette cacophonie, cette confusion, ces conflits de compétences qui règnent entre les ministères de l'EPSP et de la FMEA, le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette cacophonie?
Mais en fait, c'est tous ne discutent que sur leur ventre. Ils ne voient pas, ils ne mettent pas au premier plan la formation. Ils ne mettent pas au premier plan l'efficacité, la compétence de tous ces élèves qui doivent terminer leurs études. Mais est-ce que c'est pour rien qu'on a eu à séparer les deux ministères? On a eu à constater un problème. Ils se sont dit, écoutez, les gens beaucoup plus vont dans ce qui est dans la formation générale. Il y a négligence de l'aspect technique et professionnel. Que nous arrivions d'abord à séparer. Quand on sépare, cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que dans les PSP, il y a des inspecteurs, il y a des professeurs, il y a des sous-professeurs. Dans l'autre ministère technique et professionnel, il y a des inspecteurs, il y a des professeurs, il y a des sous-professeurs. Alors, donc, cela veut dire quoi? L'évaluation du programme de formation au niveau technique et professionnel, l'évaluation là ne peut pas se réaliser dans le même contexte que l'évaluation au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Donc ce sont des contextes différents et des perspectives différentes, quand bien même que l'on puisse parler des examens d'État. L'examen d'État concerne les deux ministères. Et il n'y a pas quelqu'un qui doit prendre la primauté sur un autre ministère, même si on parle d'une épreuve nationale. Cette épreuve nationale concerne les compétences de chaque ministère. Mais le débat que nous avons ici, c'est à part le fait de l'argent. Il y a un ministère qui refuse que notre ministère puisse avoir de l'argent. Alors lorsqu'on doit discuter, c'est tout ce qui est subjectif. Là, nous n'allons pas nous en sortir. C'est la preuve qui atteste qu'il y a un dysfonctionnement dans le secteur éducatif. D'ailleurs, moi, j'ai proposé que nous puissions seulement avoir un ministère de l'éducation nationale avec des vice-ministères au niveau de l'enseignement primaire et secondaire et avec des vice-ministères au niveau de l'enseignement technique et professionnel. En ce moment-là, tout est chapeauté par les ministres de l'éducation nationale où il n'y aura plus de problème. Mais avec tels éléments, telle séparation, telle discussion qui s'engage, c'est comme s'il y avait aussi examen d'État. En réalité, dans notre pays, il n'y a pas examen d'État, il n'y a pas épreuve nationale, ça c'est de la forme. Mais tous ces enfants qui sont dans des salles pour être évalués, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ces examens arrivent déjà dans des salles avant d'être entre les mains des préfets. Les préfets, ils ont des examens déjà, ils constituent des laboratoires et ils donnent de l'argent à ces laboratoires, à ces enseignants, et les enseignants, les élèves, ils sont dans la classe en train d'attendre les résultats qui doivent venir de l'extérieur. Et tout cela, c'est un domaine d'argent. Nous refusons qu'on amène tous les Congolais, que tous les Congolais sur ces champs-là, c'est un mauvais champ qui atteste qu'il y a un problème de sérieux dans la tête, dans le chef du Congolais.
Voilà. Professeur, vous proposez qu'on crée un ministère de l'Éducation nationale avec deux vice-ministères, c'est ça?
Voilà. C'est ce que je propose. Lorsque nous aurons le ministère de l'Éducation nationale, en ce moment-là, les problèmes ne doivent plus se poser. Parce qu'il y a un ministre qui est en train de chapeauter les deux ministères. Et l'Éducation nationale ne va pas seulement concerner l'enseignement ou la formation pour technique professionnelle.
ça doit prendre aussi la famille, ça doit prendre aussi la formation continue. Et tout cela, nous voulons que ça soit unique. Il faut que l'école primaire soit en relation avec l'école secondaire soit en relation avec l'enseignement supérieur universitaire, de façon à ce que nous puissions avoir une unité dans le domaine de l'éducation. Ce type de séparation, à certains égards, nous avons apprécié cette démarche parce qu'il fallait vraiment nécessairement mettre l'accent pour l'émergence du pays sur l'aspect technique et professionnel et non pas seulement viser l'enseignement fondamental, l'enseignement général. Mais il faut aussi aller dans l'enseignement technique. C'est une bonne manière aussi de voir les choses. Mais lorsqu'il y a maintenant des débats sur l'argent...
Donc le vrai problème, c'est l'argent, c'est la gestion des financements des bailleurs.
Oui, le vrai problème, c'est l'argent. Et l'argent là, comment on est en train de l'acquérir? C'est aux dépens des familles, aux dépens des parents, et ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Et ce sont des grands messieurs qui mettent tout à la place publique. Et lorsque les autres pays peuvent poser la question, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? On dit que c'est un problème d'argent. Alors la formation, qu'est-ce qu'on fait de la formation des enfants? Qu'est-ce qu'on fait de la formation? Lorsqu'on parle d'examen, c'est une évaluation de la formation, d'un travail qui a été déjà réalisé. Pourquoi ne doit-on pas se préoccuper du travail qui se réalise de manière différente au ministère de l'enseignement primaire et secondaire et à celui de l'enseignement technique et professionnel? Les deux enseignements ne se réalisent pas de la même manière.
Voilà, merci professeur Yaouzi Manizami, expert en sciences de l'éducation. Monsieur Marcel Nyongo, il y a eu une réunion dernièrement à la présidence, il y a eu même un communiqué qui a sanctionné cette rencontre et il a été clairement dit qu'il revient au ministère de l'EPSP d'organiser les examens d'État. Mais cependant, une commission mixte a été mise sur pied, une commission mixte EPSP-FPMEA chargée d'élaborer les parcelles des fonctionnalités des quatre domaines de collaboration. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, je voudrais un peu revenir sur ce que le professeur a dit avant de répondre à votre question. Je suis parfaitement d'accord avec le professeur quand il parle d'enseignement technique et professionnel. Là, je suis d'accord avec lui. Mais ici, nous parlons de la formation professionnelle, métier et artisanat. Il doit séparer les choses. L'enseignement technique et professionnel est différent de la formation professionnelle, métier et artisanat. Voilà un peu la pression que je voulais donner. En ce qui concerne la question, il y a eu effectivement quatre domaines de collaboration entre les deux ministères. Je peux vous les lire succinctement.
Oui.
Il y a eu la première conception, émission et diffusion du calendrier de formation dans tous les établissements, en collaboration avec les ministères ayant l'enseignement primaire, secondaire, professionnel dans ses attributions. Ça, c'est le premier domaine de collaboration. Deuxième domaine, établissement des équivalences des titres en collaboration avec les ministères ayant l'enseignement primaire, secondaire, professionnel dans ses attributions. Troisième domaine, conception, élaboration, impression et diffusion des programmes de formation professionnelle pour les établissements, en collaboration avec les ministères ayant l'enseignement primaire, secondaire, professionnel dans ses attributions. Quatrième, enfin, organisation, supervision et publication des épreuves certificatives et des concours de compétences, en collaboration avec les ministères ayant l'enseignement primaire, secondaire, professionnel dans ses attributions. Voilà un peu les quatre domaines de collaboration entre les deux ministères. Donc, c'est pour vous dire, monsieur le journaliste, que les leaderships revient à l'EPSP. Toujours dit en collaboration. Donc, lorsqu'on va, par exemple, élaborer le calendrier de la formation professionnelle, voilà où les choses doivent être claires. Calendrier de formation professionnelle. Ça, c'est les attributions du ministre de la formation professionnelle, mais en collaboration avec l'EPSP.
Prenons par exemple l'impression des bulletins. L'EPSP imprime les bulletins, l'autre aussi, FMEA, imprime les bulletins. Maintenant,
voilà la cacophonie.
La cacophonie.
L'EPSP imprime le bulletin pour les élèves de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Un point entrée en collaboration avec la CERNI. Mais le ministère de la formation professionnelle, un métier artisanat, quand il va imprimer les bulletins, en principe pour les enfants qui terminent dans des cycles de formation. Je vous donne le cas de l'INPP. L'INPP fait de la formation professionnelle. Vous comprenez?
Oui.
L'INPP fait de la formation professionnelle. Il reçoit tous ces candidats-là, peut-être qui ont des déficiences sur le plan professionnel. Ils vont là-bas pour une formation afin qu'ils deviennent utiles à la société. Voilà un peu le champ d'application de notre ministère de la formation professionnelle. C'est un ministère très très important parce que dans notre pays, nous n'avons pas une classe moyenne. Alors il faut former la classe moyenne. Nous n'avons pas de bons charpentiers, nous n'avons pas de bons cordonniers, mais nous devons les former. Et si nous n'arrivons pas à les former, monsieur le juge, je crois que le pays ne va pas décoller. Donc ce ministère-là est très très important, mais nous devons savoir où se situe, où se limitent nos attributions. Voilà un peu les problèmes.
On va accueillir Platini Mbombo de Mbandaka. Dieu gracias nous appelle de Kananga. Comment régler les conflits de compétences entre le ministère de l'EPSP et celui de FPMEA? Platini Mbombo, bonjour.
Je dis bonjour, bonjour l'invité, bonjour tout le monde.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, je dis pour m'avoir accordé la parole. Aujourd'hui, c'est un sujet très important, parce que l'épreuve des années de stage s'impresse aussi à l'horizon. Mais je voudrais parler, parce que vous avez dit, c'est un problème de conflit entre le ministère de l'EPSP et nous, voilà. Mais je dis, le ministère de la formation professionnelle, je ne sais pas ça a créé à quelle année. Parce que moi, je suis sur Mbandaka, on a vu le déroulement entre le ministère de l'EPS et entre la division de l'EPS. C'est lui de la formation professionnelle, tout ça. Le ministre a fixé les montants, les répartitions, les preuves, tout ça, l'autre là, il a permis tout ça. Alors moi, je voudrais vraiment avoir une idée par rapport à tout cela. Parce que tout nous, on cherche pour l'éducation, dans les meilleurs délais. Et je voudrais poser rapidement à l'invité, si l'invité peut le dire, par rapport à avec le. La séparation, qui a donné l'idée pour séparer entre le ministère de l'EPST et celui de la formation professionnelle. Parce que tout, c'est ça, on cherche toujours pour éduquer et former sur nos enfants. Mais il s'est posé, mais le conflit vient d'où? Et ça, tout revient ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, voilà ce que je voudrais vraiment avoir de l'idée par rapport à ça. Parce qu'on a suivi, on a entendu, et on a vécu, c'est un bonheur chez nous, il y a un problème entre les deux ministères, mais le ministère là, c'est tout le monde qui s'en sort. Mais si c'est nous à province, il n'y en a pas. Il n'y a pas un ministre qui s'occupe au niveau du ministère de la formation professionnelle. Il y a seulement un ministre de l'EPSP, de la province de l'Équateur. Alors moi, je voudrais quand même avoir l'idée, l'organigramme.
D'accord, les job descriptions de Charles, voilà. Oui, merci. Merci d'avoir appelé Deo Gracias de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Dodi. Bonjour aussi à nos invités.
Quelle est votre préoccupation?
Et ma préoccupation est la suivante. Normalement, lorsque l'on constate sur l'ensemble du territoire national, que les invités nous disent, les taux des analphabètes est beaucoup plus constaté du côté de la jeunesse ou du côté des adultes. Parce que on connaît bel et bien que, ça c'était la question, et je la motive dans ce sens ici. On connaît bel et bien que la formation professionnelle, c'est pour ne pas rattraper les gens qui ont raté la formation normale, l'éducation normale. Et si on constate aujourd'hui, je vois que les gens profitent toujours de l'argent comme on l'est dit là. Et les parents sont suscités de toutes formes et de toutes manières. Il y a des parents aujourd'hui chômeurs et qui n'ont jamais accès, n'est-ce pas, sur le banc des lits.
Alors, quelle est la question? Quelle est la question pour terminer?
La question est de savoir, est-ce que le taux du chômage, le taux des analphabètes plutôt, est constaté beaucoup plus chez les adultes ou chez la jeunesse? Parce que la formation professionnelle veut seulement, n'est-ce pas, former aussi les élèves. Aussi longtemps que la formation professionnelle, sa mission, n'est-ce pas, est d'encadrer les gens qui ont raté l'enseignement normal.
D'accord. Merci, Deo Gracias. Monsieur Didier Bakeke, vous avez la parole.
Je vous suis.
Vous avez la parole. Vous avez suivi les différentes interventions des auditeurs.
Oui, je suis pas d'accord avec les professeurs puisqu'il y a la confusion entre les formels et les non-formels. D'abord, nous, dans notre déclaration, nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord pour qu'on supprime le ministère de la formation professionnelle. C'est un grand ministère qui devrait s'occuper de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle. C'est un grand ministère puisque 20% seulement des enfants congolais sont pris en charge dans l'enseignement formel. Donc, alors qu'on se batte pour les formels, alors que dans les non-formels, il y a un grand nombre des individus qui ne sont pas pris en charge. Donc c'est pourquoi nous avons interpellé l'autorité et même le gouvernement pour dire que non, nous devons travailler, remettre le ministère de la formation professionnelle dans ses prérogatives légaliennes et réelles. Là, on aura à rendre service à la population. Aussi, aujourd'hui, nous sommes pas d'accord avec les comportements des inspecteurs. Tous les ONG et les associations ont trouvé que ce sont les inspecteurs qui ont été à la base, puisqu'ils sont instrumentalisés. On devrait garder l'unicité des corps des inspecteurs, puisque même ici, les organisations, par exemple, l'organisation des épreuves certificatives, ça c'est au niveau de l'inspection. Donc, s'il s'agit d'organiser, c'est l'inspection qui devient. Aujourd'hui, nous voyons les inspecteurs, les autres sont pour les FCDA, les autres sont pour les PSP.
Et les inspecteurs
sont à la base de la confusion.
Et ce qui est plus grave, les inspecteurs se battent même dans les écoles devant les enfants.
Oui, monsieur le journaliste, c'est pourquoi nous voulons que le gouvernement puisse regarder réellement, puisque ce sont les inspecteurs qui devraient garder l'efficacité même du système éducatif, mais eux, ils sont pris dans des sentiments, des questions d'argent, ils se battent. Et même quand nous, on étudiait, quand on disait que l'inspecteur arrive dans votre école, nous, on voyait même les préfets trembler. Mais aujourd'hui, les inspecteurs se sont sortis puisqu'ils se sont liés derrière tel courant, alors sacrifiant maintenant le système éducatif. C'est pourquoi nous avons proposé qu'on garde l'unicité du corps des inspecteurs.
Oui.
Et avec ça, on peut trouver des solutions. Voilà.
Mais le professeur Yaoui a proposé qu'on crée un ministère de l'éducation nationale avec deux vice-ministres. L'un sera chargé de la formation.
Cette expérience-là a déjà eu lieu dans notre pays.
Oui.
Ça va alourdir encore les choses. Nous avons proposé tout simplement qu'on fasse la relecture des attributions et qu'on puisse détailler clairement de manière spécifique
les job descriptions
des autres pour qu'on ne fasse pas la confusion. Et c'est quoi que ça peut aller. Si on met des bons aussi, des bons animateurs, puisqu'à la fin nous avons dit que le secteur de l'éducation, nous avons proposé au président de la République, soit exempté de tout partage des gâteaux des politiciens. Je vous informe, monsieur le journaliste, on discutait avec un expert de l'enseignement. Il m'a dit que le secteur de l'enseignement, c'est plus que la banque centrale. Est-ce que vous voyez un peu comme ça?
Ça veut dire que
les gens sont dans le système éducatif pour s'enrichir.
Pour s'enrichir.
Alors, nous avons dit, maintenant, on va répartir les responsabilités.
Oui.
Que les animateurs des ministères soient des véritables technocrates. Ce n'est pas pour le partage des garçons, pour aller là-bas pour trouver l'argent pour le parti ou pour le tel ou tel. Voilà un peu ce que nous avons proposé au président de la République.
Voilà, donc on retient que à la base de ces conflits, c'est beaucoup plus un problème d'argent. Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa. Jonas Kabinda, vous nous appelez des Kananga. Maître Gaston, bonjour.
Bonjour, j'ai dit Daniel.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, j'ai dit, nous devons être sérieux à mon avis, parce que vous savez, il s'agit, comme vous l'avez dit, de conflits, de compétences. Et dans le cas d'espèce, en tant que juriste, je pense qu'il devrait y avoir un organe habilité à régler de pareils cas. Et dans le cas d'espèce, je pense que c'est le Conseil d'État, le Conseil d'État qui devrait préciser d'abord les attributions dans le cas d'espèce, rentrer dans quel ministère, quel est le ministère qui a été là. C'est parce que normalement, à mon avis, lorsqu'on arrive à scinder des ministères comme ça, il faut aussi prendre le soin de préciser les attributions de chacun des ministères créés pour éviter la confusion. Ou soit, juste après cette décision de scinder, faut prendre les mesures qui vont accompagner en précisant tel ce va faire ceci, tel va faire pour éviter les confusions dans l'avenir. Mais il est aussi vrai que à mon avis, l'arrêté là que vous faites allusion est venu c'est l'entorse à mon avis. Et je pense que c'est le Conseil de sécurité, disons le Conseil d'État qui est habilité pour le moment à préciser qui est compétent pour faire quoi et qui ne l'est pas. Mais je pense aussi pour bien dire les choses, vous savez, la formation professionnelle normalement n'est pas d'aujourd'hui dans notre pays. C'est quelque chose qui date de longtemps. Il faut voir comment que les choses se passaient dans les temps. Il ne faut pas créer des choses qui n'existaient pas. Parce qu'à mon avis, ceux qui faisaient la formation professionnelle ou qui étaient dans des centres de métiers comme ça, leur formation était sanctionnée par un brevet. Un brevet qui, dans le cas d'espèce, c'était l'organisation interne de chaque institution qui devrait imprimer peut-être les frais qu'on devrait donner juste pour l'organisation des séances, des évaluations, mais aussi l'impression des documents qu'on vous livre là. Et ça doit continuer comme ça. Mais si, par exemple, ils veulent innover en organisant pour les finalistes des épreuves nationales en termes de comme les autres, ils refusent leur terme. Leur terme qui est l'examen d'État, et ils peuvent proposer un autre terme, par exemple, les épreuves de fin de cycle, pour éviter, et puis voir qu'est-ce qu'il faut demander aux parents pour l'organisation des événements. Et je pense aussi que pour l'EPST aussi, c'est la même chose. Parce que les frais qu'on demande là, normalement, ce n'est pas l'argent qui entre dans les poches des gens, c'est l'argent qui va faciliter l'organisation des épreuves. Mais à mon avis, j'ai pu constater comme le ministère, l'autre ministère du gouvernement créé n'a pas de moyens, et surtout qu'il n'arrive même pas à identifier qui sont dans son secteur, et c'est le travail qui devrait normalement faire identifier quels sont les centres de formation, dans tout ça, ces inspecteurs pouvaient suivre, voir s'il y a des droits à percevoir, parce qu'ils n'ont pas de droits à percevoir, ils se battent pour ne serait-ce que percevoir des frais créés comme examen d'État, des trucs comme ça, pour que les inspecteurs du secteur se retrouver, surtout que le secteur n'est pas financé. Moi, je pense que c'est un parent pauvre, c'est pour cela qu'il faut comprendre la bataille actuelle. Mais pour les épreuves en soi, il n'y a pas de conflit. Et s'il y en avait, il faut voir le conseil
le conseil d'État. Oui. Merci, maître Gaston. Merci d'avoir appelé Jonas Kabinda de Kananga. Bonjour, quelle est votre préoccupation par rapport à ces conflits de compétences entre les PSP et la FPMR?
Bonjour, aujourd'hui. Les problèmes de compétences se posent avec beaucoup, beaucoup d'acuité ici au Kassai Central, à Kananga, particulièrement.
Là-bas aussi, les inspecteurs se battent dans les écoles.
Mais vous n'avez pas l'idée, oui, ils se battent dans les écoles. Imaginez-vous, les inspecteurs de l'ETP sont allés au contrôle des dossiers des élèves. Ceux de l'EPC apprennent que les inspecteurs de l'ETP sont déjà là et ils courent à l'école. C'est une cacophonie et puis c'est un désordre. Il y a eu des bacs ici. Alors, ils se dénigrent. C'est l'enseigne que lorsqu'il y a eu concours des inspecteurs, ceux de l'ETP ont fait 9 jours de formation. Mais ceux de l'EPSP ont fait 3 mois. Et les inspecteurs de l'EPSP n'aiment même pas entendre que leurs collègues, les inspecteurs de l'ETP puissent les appeler collègues. Et ils se gardent en chaîne de défaillance. Alors, moi, je pense que, comme le temps faisant défaut, je pense que pour mettre fin à ce problème, pour éteindre le feu, je me rallie à l'idée du professeur Yawidi, que je salue en passant, qui a soutenu qu'il faille un seul ministère. Je pense que c'est le gouvernement qui va sortir. Si on créait un seul ministère de l'éducation avec un ministre, et peut-être sera succédé de différents secrétaires généraux, il y a moyen d'éteindre le feu. Parce que si vous imaginez, il y a même des limites. Les inspecteurs de l'EPSP vous disent, ceux de l'ETP ne peuvent pas aller visiter les écoles qui sont implantées telle part. Et une fois on les retrouve, ce sont toujours des insultes, même publiquement, et ça ne fait pas vraiment avancer l'éducation. Donc moi je pense qu'il faut qu'il y ait un seul ministère et que les charges attribuées à chaque ministère soient bien élaborées, bien arrêtées, et que surtout que l'État, le gouvernement puisse mettre le pied là-bas et puis faire respecter les règles du jeu. Sinon, et surtout à Kassai Central, sinon il y aura des morts. Vous allez entendre un jour qu'un inspecteur de l'EPSP a tué quelqu'un, a tué son collègue de l'ETP, parce qu'ils sont capables de se jouer des coups à chaque minute.
C'est bien dommage quand les inspecteurs se battent dans les écoles comme ça. Monsieur Marcel Nyongo.
Oui, vraiment c'est dommage. Nous sommes éducateurs. Ce n'est pas un bel exemple que nous devons présenter à nos enfants. Et quand cela ne tienne, monsieur le journaliste, nous devons tout simplement dire que cette confusion dont nous décrions tous aujourd'hui ne relève pas des textes. Les textes sont clairs et même l'ordonnance, les décrets portant attribution à ces deux ministères sont clairs. Mais la confusion, comme tout le monde l'a dit, c'est la lettre du Premier ministre Bruno Tshibala, la lettre du 2 janvier 2018, où c'est lui qui a créé cette confusion-là. Quand il dit que l'enseignement technique et professionnel doit aller à la formation professionnelle métier artisanat. C'est là où a commencé les problèmes. C'est cette lettre ici qui est devant nous ici. Cette lettre qui crée toute confusion. Malheureusement, lui-même est incapable de remettre les choses en ordre. Il laisse pourrir la situation.
Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour ne plus laisser pourrir la situation? Monsieur Didier Bakeke, en quelques mots.
Oui, je suis d'accord avec l'approche du gouvernement, sauf que les associations doivent être associées dans la commission interministérielle. Je ne suis pas d'accord pour la création d'un grand ministère de l'éducation, puisque notre pays est assez grand. Nous voyons les expériences qui se font dans d'autres pays. Le ministère de la formation professionnelle qui s'occupe de l'apprentissage de l'insertion professionnelle fonctionne au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, normalement, sans conflit, sans quoi. Alors nous voulons que nous appuyer sur ces expériences-là et nous demandons également aux partenaires, puisque les partenaires aussi s'alignent derrière tel ou tel ministère, au lieu de s'aligner sur la vision réelle du gouvernement. Alors nous demandons également aux partenaires d'appuyer le gouvernement, d'éclairer les nouvelles autorités pour que qu'on puisse aller pour l'intérêt du système éducatif et non pour... l'investissement des individus.
Bien, merci M. Didier Bakeke, Ben Pocho. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de l'Association pour la promotion de l'enseignement technique et la formation professionnelle à RDC. Et merci, bonne journée. Et nous disons également merci à M. Marcel Nyongo Mabiala, président de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire et secondaire et secrétaire général de la CIECO. Voilà, du CIECO. Merci et à la prochaine.
Merci.